Hello, ici Jade du blog Belle Demain, le blog consacré à la beauté naturelle et éthique, ainsi que le girl power dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau podcast où, pour changer des cosmétiques naturels, nous allons parler de mode éthique. Parce que la beauté éthique passe aussi par des vêtements dans lesquels on se sent belle et fraîche, tout en respectant les personnes qui ont travaillé pour cela et en contribuant à l'économie circulaire. J'ai donc eu aujourd'hui le plaisir d'interviewer Inès Boumiza, fondatrice de Panaché. Panaché, c'est des vêtements sur mesure, créés à partir des vêtements de vos placards laissés à l'abandon, que vous ne portez plus ou alors que vous n'osez plus porter. Après un rendez-vous, Inès transforme vos plus belles pièces en les remettant au goût du jour. En plus, elles conviendront à votre style et à votre morphologie. Dans cette interview, Inès nous parle aussi de son parcours, de son poste d'ingénieur télécom à créatrice de mode, de ses passions, et elle nous donne plein d'autres astuces pour apprendre et faire de nouvelles rencontres. Bonne écoute! Alors, hello Inès!
Salut!
Et merci à toi d'avoir accepté cette interview.
Ah ben merci à toi pour l'interview.
Merci. On va continuer à se lancer des fleurs.
C'est ça.
Merci. Fleur. Merci. Alors, peux-tu te présenter en quelques phrases et nous en dire un peu plus sur Panaché?
Ouais. Alors, donc moi, c'est Inès, donc je suis la créatrice de Panaché, donc qui est une jeune marque éco-responsable, comme on aime le dire. J'ai 29 ans maintenant.
Ok. On est dans le même bateau, on est dans le même bateau. Plus qu'un an avant la trentaine.
Ouais, bon, on en profite encore un peu.
C'est ça.
Donc, j'ai 29 ans, je suis originaire de Tunis, ma maman est française et mon papa est tunisien, et j'ai un parcours un peu atypique, puisque à la base je ne suis pas créatrice de mode, je suis en reconversion professionnelle. En fait, j'ai plutôt une formation ingénieur télécom, voilà. Et du coup, il y a quelques mois, j'ai lancé ma marque Panaché. Donc Panaché, c'est une marque un peu spéciale puisque l'idée, c'est de créer des robes sur mesure ou semi-sur mesure pour des femmes qui ont envie d'avoir une robe qui lui va et qu'elle peut garder longtemps.
C'est important.
Voilà, exactement. Et l'idée, c'est de récupérer des vêtements de seconde main. Alors tu peux les trouver soit dans le placard de la personne, soit en allant chiner des matières. Voilà. Donc l'idée, c'est je crée ces robes-là en récupérant la matière, la décousant et l'utilisant comme base pour créer le modèle.
C'est de l'upcycling en fait.
Ouais, c'est de l'upcycling, exactement. Donc vraiment, j'ai plusieurs niveaux d'upcycling, hein, parce que en fonction du modèle et en fonction de ce que veut la cliente, je vais privilégier des choses de son placard, ensuite des choses que j'ai chinées ou des choses qu'on m'a données. Et quand vraiment, par exemple, tu vois, tu as une robe hyper évasée où tu as besoin de beaucoup de matière, là, je m'autorise à aller chercher des fins de rouleau ou des draps ou des choses un peu différentes.
Voilà. Des draps, ouais, c'est pas mal ça.
Des draps ou des rideaux, mais bon, après, ouais. Le truc, c'est que tu tombes souvent sur des motifs fleuris ou des choses comme ça, ou puis des fois, t'es pas... La matière, elle n'est pas forcément de bonne qualité, donc voilà, il faut regarder. D'accord. Et je privilégie au maximum aussi des matières naturelles. C'est-à-dire que j'évite tout ce qui est polyester, viscose, quand je peux aller sur de la soie ou de la laine. Voilà.
Ah, mais c'est génial. Donc par exemple, chez moi, c'est vrai que j'ai 2-3 robes que j'aime beaucoup, mais soit qui sont le tissu est un petit peu abîmé ou qui ne me vont pas forcément plus. Ouais. par exemple, tu peux venir, c'est ça? Tu viens chez tes clientes?
Donc, en fait, souvent, ouais, le rendez-vous est souvent chez moi pour l'instant parce que du coup, je me travaille de chez moi. Alors, on prend rendez-vous. Ça se passe en fait en 3 rendez-vous. Alors quand tu choisis l'expérience sur mesure, hein, parce que du coup il y a plusieurs offres, mais l'expérience sur mesure, c'est vraiment en 3 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est vraiment un rendez-vous de prise de connaissance. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre un peu le style de la cliente, ce qu'elle aime, ce qu'elle a dans son placard et qu'elle veut réutiliser, ce qu'elle a envie comme robe. Et l'idée vraiment, c'est avec un petit book de création, on crée la robe, on va dire en live. En fait, on dessine, enfin, elle choisit les différents modèles, enfin, le modèle de robe qu'elle veut, elle choisit la matière, elle choisit le style, les manches, tout, tous les détails. Moi, je repars avec tout ça et je vais créer un modèle, un ou plusieurs modèles en fonction de... Alors, des fois, la cliente, elle sait exactement ce qu'elle veut, donc là, c'est facile. Ouais. Et puis, des fois, elle est un peu indécise. Comme j'ai pris pendant le premier rendez-vous ses mesures, donc je suis capable de dire quelle est sa morphologie. Et donc, moi, je vais lui proposer aussi des modèles. Je fais un peu de pédagogie. C'est-à-dire qu'une robe que tu vas garder, c'est une robe qui te va et qui te va aussi avec ta morphologie et dans laquelle tu te sens belle. Donc, l'idée, c'est vraiment de lui faire aussi du conseil en morphologie en lui disant, bah, voilà, toi, tu es en forme de sablier. Donc, l'idée, c'est vraiment de marquer ta taille. Donc, mettre en valeur ses atouts. Et du coup, le deuxième rendez-vous, moi, je suis allée chiner des matières si jamais elle n'a pas de matière. Ou alors, j'ai dessiné un modèle qui va avec les matières qu'elle m'a données. Et l'idée, c'est que je lui fasse essayer une toile. Donc, c'est la robe avant la robe. Donc, généralement, c'est sur la robe. Enfin, je vais souvent chercher des choses que, par exemple, elle n'a pas l'habitude de porter. Typiquement, là, j'ai eu une cliente, il y avait deux modèles. Je lui ai fait les deux dessins. Et je lui ai fait la toile avec le modèle que je voulais lui pousser parce que... Elle n'était pas habituée à porter ça et je suis sûre et persuadée que ça lui irait bien. Voilà. Et donc elle a essayé la toile, donc qui est en fait finalement du coton, une espèce de cotonnette pas top top. Et du coup, elle a essayé, elle a dit ah oui, effectivement, j'ai pas l'habitude, mais j'aime bien.
Ah, c'est top. Franchement, est-ce que c'est tout le monde qui fait d'abord des robes en toile ?
Alors, c'est le principe du sur-mesure. Le sur-mesure, généralement, en fait, tu fais une toile pour ajuster les... Parce qu'en fait, bon, le corps humain, c'est pas qu'il est étrange, mais...
il est beau, le corps.
Le corps humain, on a tous un corps différent. Et du coup, t'as ce que t'apprends à l'école et ce que t'apprends en cours, et puis t'as la réalité. Donc moi, le modèle, je l'applique à partir d'un patron, d'accord, avec des règles géométriques, mais après, tout ce qui est cambrure, tout ce qui est poitrine, tout ce qui est petit bidon, tout ce qui est...
Morceau de peau, morceau de gras...
Bah, tout ça, on va dire, tu l'appréhendes quand tu rencontres la cliente, mais il faut toujours vérifier avec une toile pour s'assurer que le modèle va parfaitement à la cliente. Voilà.
D'accord.
Okay. Donc, puis tu sais, tu peux avoir des erreurs de prise de mesure. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que c'est mieux de faire la toile. Alors, quand le modèle existe déjà, j'évite, mais franchement, quand c'est un nouveau modèle, etc., et que la cliente, elle est un peu stressée, qu'elle veut être sûre qu'elle aime le modèle, franchement, pour une prise de conscience, la toile, c'est top. Et puis moi, de toute façon, après, les toiles, je les récupère, puisque je les découds et je les réutilise pour d'autres clients.
Ah oui, c'est top, ça. Upcycling jusqu'au bout.
Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir, de faire un pas à pas. Des fois, t'as des personnes, elles ont besoin d'être accompagnées, d'être guidées, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire.
Ouais, ça dépend vraiment des personnes, en fait.
Exactement. T'as des gens, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et là, ça va très vite. Puis t'en as d'autres, il faut un peu plus de temps. Mais d'accord, c'est de la pédagogie, voilà.
Du coup, est-ce que tu peux juste me reparler de la troisième, du troisième
rendez-vous ? Du coup, le rendez-vous 3, la cliente, elle l'a. Donc là, moi, entre le rendez-vous 2 et le rendez-vous 3, je pars avec le modèle. Il est validé, j'ai les matières. Et là, du coup, je coule le vêtement. En fait, il y a deux étapes. Il y a la découture, généralement, du vêtement existant, qui peut prendre un peu de temps, parce que du coup, tu découvres souvent. Des choses dans les coutures. Donc là, c'est là que tu joues sur du patchwork, par exemple. Par exemple, tu vas avoir des moments où la matière, elle n'est pas adaptée, donc tu es obligé de découper le patron en deux parce que tu te rends compte qu'il y a une tache au milieu. C'est hyper intéressant parce que ça fait travailler ta créativité et du coup, tu vas chercher d'autres choses. Donc je trouve ça intéressant comme ça pour pouvoir aller. Créer de nouvelles choses. Tu vois, typiquement, quand tu regardes les robes qui sont pendues, au départ, le modèle n'était pas vraiment comme ça, mais j'ai adapté en fonction de ce que j'avais en tant que telle. Typiquement, la robe bleue, c'est du patchwork parce que je me suis rendu compte que les trois matières que j'avais, elles avaient, enfin, au départ, c'était pas censé être comme ça, mais du coup, j'ai dû ruser, on va dire, pour que ça soit bien. Okay. Et donc, au troisième rendez-vous, la robe est prête. Donc, la cliente essaye sa robe. Généralement, il n'y a pas trop d'ajustements à faire parce que, du coup, tu les as fait avec la toile. Du coup, tu n'as pas abîmé les matières, etc. Donc, c'est hyper intéressant aussi de le faire en rendez-vous 2, la toile, pour ça, pour éviter d'avoir trop d'ajustements à faire en rendez-vous 3.
Et
donc, la cliente, elle essaye. On fait un petit shooting, voilà, pour raconter un peu l'histoire de la robe. L'idée, c'est vraiment de faire un avant-après, pour que, du coup, aussi, il y ait l'histoire de cette robe-là. Voilà.
Mais c'est génial, c'est un peu une renaissance, quoi, de se dire des vieilles robes qui restent dans nos placards. Ouais. Et au final, voilà, on leur redonne vie.
Ouais.
Et puis, non, c'est vraiment sympa. Et puis, au final, les possibilités sont infinies, quoi.
Ouais,
parce
exactement.
Que...
Pour un même modèle, en fonction des matières. Alors, tu peux utiliser des robes, mais tu peux utiliser des jupes, tu peux utiliser des chemises, tu peux utiliser des pantalons.
Ouais, c'est
vraiment... on est hyper libre. Après, ça dépend de la qualité, etc.
Ok, d'accord. Ouais. Et ouais, c'est en plus ce qui est top, c'est vraiment un accompagnement aussi. Tu fais la robe, mais en même temps, c'est aussi un accompagnement. Voilà, tu apprends aux femmes à savoir ce qui leur va. Donc,
parce qu'il y a un vrai, enfin, tu te rends compte que quand même, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas situer leur taille, qui ne savent pas situer où sont leurs hanches. Elles ne connaissent pas trop leur corps et du coup ça permet aussi de se dire ben tu vois cette forme là elle va t'aller plus que celle-ci et celle-ci elle va mettre en valeur ben, je sais pas ta poitrine enfin tu il y a vraiment c'est hyper didactique, il y a un accompagnement.
Ouais, et puis à la fin tu vois aussi la robe un peu comme un accomplissement quoi. Un accomplissement de toi Et puis, tu sais que tu vas te sentir bien dedans.
Ouais,
c'est très important. Et je pense que ça donne aussi vraiment une certaine valeur à la robe.
Ouais.
De se dire que voilà, qu'elle est passée par plein d'étapes.
Ouais,
et d'encore plus d'en prendre soin après.
Ouais.
Et justement, je trouve que c'est ça qui est vraiment top dans la bonne éthique. C'est prendre quelque chose de qualité, qui a de la valeur.
Ouais. Et lui donner une qualité
Au plus.
Voilà. Et c'est aussi de travailler les coutures pour faire des coutures qui tiennent. Expliquer par exemple que la soie, tu vas avoir des coutures, enfin ta définition qui vont permettre que la soie ne s'ouvre pas, ne se troue pas, etc. Donc il y a tout un travail aussi de savoir-faire que moi j'apprends à côté aussi pour pouvoir le retranscrire, le redonner à la cliente pour dire bah voilà cette robe elle a été faite, enfin j'ai fait telle couture, j'ai fait tel choix de couture parce que ça va permettre de solidifier. Typiquement il y a des fois des matières je les récupère et puis quand je les travaille je me rends compte que ben elles sont trop abîmées ou pas assez de bonne qualité et du coup j'en change parce que je me dis au-delà de la forme de la robe je sais que ça va pas durer dans le temps au lavage ça va, je fais toujours des tests lavage pour voir comment réagit le tissu, je check tout le tissu avant et je le teste en le cousant en regardant un peu comment il réagit vis-à-vis des tensions et des coutures pour m'assurer que bah, l'idée vraiment, c'est que la cliente, quand elle a une robe, elle la garde, quoi.
Et oui, bah oui, c'est tout le,
voilà.
C'est tout le but. Mais c'est top, quoi. Je trouve que c'est plus que du sur-mesure. C'est.
Ouais, c'est une expérience.
C'est
voilà.
Ça, voilà, exactement. C'est une expérience.
De création, quoi. Voilà.
Super. Ça marche. Est-ce que, si on en revient un peu sur toi, tu peux nous donner ton parcours parce que du coup tu m'as dit qu'à la base tu étais ingénieur en télécom,
ouais.
C'est ça? Donc quel est ton parcours scolaire et professionnel jusqu'à arriver à panacher?
Alors mon parcours professionnel, donc moi j'ai, donc, comme je t'ai dit, 29 ans, moi j'ai fait mes études jusqu'au bac à Tunis, donc au lycée français de Tunis, et à mes 18 ans, bon j'étais plutôt une bonne élève, plutôt orientée sur les maths et la physique, donc j'ai fait ce que finalement l'école m'a un peu dit de faire, c'est-à-dire une prépa maths-sup, maths-p, et puis j'ai passé des concours et puis j'ai eu une école d'ingénieurs donc qui était comme Sud Paris, qui est une école d'ingénieurs spécialisée en télécom. Donc à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, hein, t'as 18 ans, T'es bonne élève, tu fais partie des premiers de ta promo, et ton prof de maths te dit, bah, faut que tu fasses des maths, c'est génial les maths, c'est trop bien. Et puis t'arrives en prépa, et puis tu prends une bonne claque, parce que bah, t'as tous les meilleurs de France. Moi, j'ai fait le lycée Saint-Louis. Et ben, en fait, les gens, ils sont très, très bons, très, très forts. Et du coup, tu te retrouves de première de la classe à dernière de la classe. Donc, ça a été 2 années hyper difficiles. Et après, du coup, l'école d'ingé, c'est beaucoup plus cool parce que du coup, t'es plus dans ton élément, etc. Voilà, exactement. Donc là, télécom. À l'époque, je me rappelle, j'étais férue de technique. J'adorais la technique. Donc, j'ai décidé de faire un master recherche qui potentiellement pouvait découler vers un doctorat à Dublin. Donc là, j'ai bouffé du code et du réseau à pleines dents.
Mais dis-moi, la télécom, tu aimais quand même ça?
En fait, ce que j'aimais, c'était le challenge de... Enfin, tu sais, c'est pas mal de problèmes à résoudre, c'est pas mal de maths. Moi, j'aimais bien les maths, c'était des stats, c'était des probas. En fait, t'as l'espèce de challenge de dire, bah, j'y suis arrivée, tu vois. Et à Dublin, c'était typiquement ça. C'est j'arrive dans un contexte, tout le monde parle anglais, il fait pas beau, j'étais loin à l'époque de mon chéri de l'époque, et c'était, tu dois apprendre à développer, t'as fait un petit peu ça à l'école, mais pas trop, et il faut que tu fasses des trucs hyper poussés. Donc en soi, c'était hyper intéressant en termes de challenge, mais les sujets... Non, quand j'y repense maintenant, voilà, c'était pas non plus la panacée, quoi.
Panacée. Voilà.
Et du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que en mars, à peu près, on m'appelle, enfin, un chasseur de tête m'appelle et me dit, voilà, il y a une grande entreprise de conseil qui a vu ton profil et qui souhaiterait t'embaucher. Donc là, j'ai passé, alors au début, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, le conseil, j'en sais pas trop rien. Et puis, je savais que j'avais le choix, en fait. En gros, soit je faisais un PhD à Dublin, mais c'était hors de question parce que je détestais l'Irlande. J'avais pas du tout aimé mon expérience en Irlande. Soit je revenais en France, à Paris, et il fallait que le 1er septembre, je trouvais un boulot. Donc là, c'était, si tu veux, servi sur un plateau d'argent, quoi. Oui. On te fait passer des entretiens, j'en passe un, deux, puis après le challenge encore, et puis je l'ai eu. Et puis je rentre dans cette entreprise et puis là, je fais de l'architecture technique. Donc des trucs hyper techniques. En plus, j'avais insisté, je voulais faire vraiment le truc le plus technique. J'avais dit, je veux faire le truc le plus technique que vous ayez et qui ne soit pas de la sécu. Donc ça allait, enfin.
Voilà. Et du coup, excuse-moi, je te coupe un peu. Je sais pas trop ce que c'est, mais au final, la télécom, quand tu fais tout ce qui est technique,
c'est plus pratique. C'est très conceptuel. En fait, quand tu utilises ton téléphone, quand tu envoies des mails, quand tu t'as connecté à des applications, en fait, tout ça s'appuie en fait sur du réseau, des serveurs, donc des ordinateurs, des gros ordis qui viennent faire plein de calculs. Et l'architecture technique, en fait, c'est quoi? C'est le principe, c'est d'imaginer des systèmes. Qui vont venir en fait héberger toutes ces applications et ces fonctionnalités, mais dans un but de ce qu'on appelle la résilience, donc s'assurer que si jamais en cas de panne, comment ça se passe, s'il y a une coupure de courant, si tu as une coupure de réseau, comment tu designes le système pour qu'il soit hyper résilient. D'accord. Donc c'est ça l'architecture technique. Okay. Donc quand t'es une petite entreprise, t'as juste tes mails et ton appli à la limite de facturation. Mais quand t'es un Total ou un Alstom, t'as 1000 applis, t'as des milliards, des milliers d'utilisateurs. Et là du coup les systèmes sont plus complexes. Et donc d'accord. Du coup il y a des gens comme moi qui viennent et qui imaginent des systèmes et qui disent Donc en soi, pareil, c'était un challenge au début, j'y connaissais rien, j'étais là, je me disais mais c'est pas possible. Et puis petit à petit, j'ai pris goût à ça, au fait de dire je vais essayer de comprendre un truc que je comprends pas. Mais une fois que je suis arrivée à ça, du coup, t'as un espèce de parcours de vie qui fait, au final, le flot de la vie, il passe, et toi, en fait, t'es porté par ce flot-là, et à aucun moment, tu prends des décisions par rapport... Tu te poses jamais la question de... est-ce que c'est vraiment ce qui t'anime, quoi?
Ouais.
Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, moi, déjà, de base, je voulais créé mon entreprise, mais quand je suis sortie de l'école, je n'avais pas d'idée. Donc, puis dans cette grosse entreprise, en fait, j'ai évolué. Il y a aussi, tu sais, à un moment donné, quand tu es consultant, bah, tu as cette espèce de truc de je vais monter en grade, etc. Donc,
c'est partout, aussi. Je pense. Voilà.
Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, c'est trop gros, vas-y, je vais passer dans une petite boîte. Donc, en fait, je me suis fait approcher par une petite boîte, plus en mode start-up. Donc, je me suis dit, ah, en fait, j'ai besoin d'aller chercher autre chose. Donc, je suis allée dans cette petite boîte. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que là, dans cette petite boîte, on m'ouvrait à d'autres sujets, à d'autres univers. Notamment, j'ai arrêté la technique et puis je suis passée plus sur, les utilisateurs. Enfin, finalement, le besoin de base, quoi. Pourquoi tu as besoin d'avoir telle application? Pourquoi tu as besoin d'avoir tel service? Et j'ai travaillé dans des boîtes géniales, etc. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et c'était vraiment centré sur le besoin utilisateur. Donc, je trouvais ça cool. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur des méthodes un peu innovantes de travail, donc qui s'appliquent à l'IT, mais qui s'appliquent partout, en fait. C'était beaucoup de bon sens, en fait, voilà, un besoin. Mais, et puis petit à petit, en fait, dans cette entreprise, on traitait aussi d'autres sujets, donc on a commencé à parler d'éthique, on a commencé à parler d'écologie, digitale, etc. Et en fait, dans ma vie perso, je commençais à mettre en place chez mon chéri a commencé à se dire, écoute, c'est plus possible, on consomme trop de déchets, il faut qu'on change notre mode de consommation. Et moi, j'étais une shopping addict, la retail thérapie, ça, je connaissais bien. Donc, on voyageait beaucoup, on consommait beaucoup et puis on gaspillait beaucoup. Donc, on a commencé à repenser notre mode de consommation. Et puis autour de moi, ben, du coup, j'avais des gens qui étaient en mode zero waste, qui me donnaient des conseils. Donc on a commencé à acheter du en vrac, on a commencé à faire du compost, j'ai commencé à faire moins de shopping, à essayer de regarder ce qu'il y
avait. C'est dur, hein, cette phase de faire moins de shopping, mais après, quand tu t'habitues.
À un moment donné, quand tu questionnes le pourquoi,
ouais.
Ben, en fait, tu te rends compte que tu as plein de choses dans ton placard et que tu les portes jamais. Et puis tu te rends compte que, ben, une fois que tu as le truc. À partir du moment où tu l'as, bah, tu l'as, en fait. Et puis, ça passe, en fait.
C'est ça. C'était juste un besoin.
Ouais, un besoin primaire, en fait.
Primaire, hein. Ouais.
Et puis, en plus, donc ça, c'était... j'ai commencé à mettre... j'ai commencé à coudre, en fait. Là, donc, c'était il y a 4 ans. Je me suis acheté une machine avec une copine et puis on a commencé à coudre. Et cette même copine, en fait, elle a quitté son job pour faire une formation de couture et se lancer dans la mode. Et du coup, en fait, ça me donnait envie. Et à partir du moment où tu commences à coudre, en fait, t'as plus trop envie d'acheter parce que tu sais faire. Enfin, tu te dis, bah, ça, je peux le faire.
Et tu as pris des cours ?
Donc, au début, non. C'était YouTube. YouTube et Make My Lemonade. Je sais pas si tu connais.
Non, je connais pas.
Donc, Make My Lemonade, en fait, à la base, c'est une blogueuse qui faisait du do-it-yourself. Donc, elle a fait Dupéré. Donc, c'est une des meilleures écoles de mode et de couture. Puis, elle a lancé son blog. Et puis, maintenant, elle a lancé sa marque. Et franchement, ça cartonne. Donc, et elle faisait des petits patrons. En fait, c'était des jolis patrons. Parce qu'au début, tout le monde te dit, bah, fais du Bourda. Mais je sais pas si tu connais les magazines de Bourda.
C'est vieux.
Alors, les coupes, les coupes sont démodées. Et puis elle apportait un peu de fraîcheur et puis il y avait des niveaux de difficulté et puis c'était assez didactique, il y avait des vidéos donc du coup t'apprends à coudre comme ça, mais ça manquait de technicité, tu vois.
Il faut de la technicité à Inès, voilà, il faut de la technique.
Exactement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est quand là depuis septembre, je prends des cours via les. En fait, au départ, c'était via les Talents d'Alphonse, donc c'est une plateforme qui met en lien les retraités avec les jeunes créateurs ou les personnes qui souhaitent apprendre un savoir-faire. Et l'idée, c'était de rencontrer une retraitée pour qu'elle m'apprenne le métier de couturière. Et en fait, je suis tombée sur une perle, en fait. Sonia, ouais, les talents d'Alphonse. Donc en fait c'est vraiment pour recréer du lien social. Donc c'est vachement sympa. Donc si un jour tu veux apprendre l'espagnol ou apprendre à cuisiner, ben sache que cette plateforme met en relation des retraités qui par exemple savent cuisiner ou parler espagnol et ça recrée du lien sur des gens qui sont forcément un peu isolés.
Oui, il paraît que les retraités sont les personnes les plus isolées. de la population, ouais, c'est triste.
Mais... Du coup, tu vois, ma prof, je la vois toutes les semaines, elle suit mon projet, elle m'encourage, elle me transmet. Et puis
tu la vois toujours ?
Ouais, tous les jours. Toutes les semaines, on se voit. On se voit 2 à 3 heures. Et du coup, elle m'accompagne sur le projet, donc elle me transmet son savoir-faire. Alors, il faut savoir qu'elle, à la base, elle avait une école de stylisme modélisme, elle faisait des défilés, elle faisait de la haute couture, etc. Ouais, exactement. Et donc, elle avait une école en Martinique et elle était hyper connue et elle avait sa propre marque, etc. Donc, si tu veux, je suis tombée sur la perle et elle m'apprend le métier de base, quoi. Elle me réapprend tout. Ça veut dire qu'en gros, elle m'a dit tu oublies tout ce que tu as appris sur YouTube et on va reprendre la base, quoi. Donc, c'est achète-toi un critérium 0,5 parce que les traits 0,5, ils sont beaucoup plus... il faut acheter un HB et pas un...
Toi qui voulais de la technicité.
Ouais. En fait, parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu as appris d'une certaine manière, après, pour désapprendre et réapprendre, c'est hyper difficile. Donc, elle passe son temps à me dire non, pas comme ça, machin. Il faut être plus précis, plus machin, plus truc. Mais du coup, j'adore... Ça, c'était en septembre. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça.
Mais tu avais déjà des robes, enfin, tu cousais déjà tes propres robes.
Alors, en fait, elle m'apprend tout. Elle m'apprend le stylisme, elle m'apprend... En fait, la seule chose que j'ai appris seule, c'est à dessiner.
D'accord, ok.
Cet été, parce que pour la petite histoire, en fait, j'avais quitté ma première boîte en novembre 2016. J'étais dans la petite entreprise et en fait, le chemin a commencé à se faire dans ma tête. Et puis en mai-juin, en fait, je me suis rendu compte que le job de consultante, c'était hyper intéressant pour moi parce que je rencontrais des gens et que je transmettais mon savoir à d'autres gens. Mais je me rendais compte que les thèmes et les sujets me...
C'est pas ce qui t'animait, ce qui te prenait aux tripes. C'est pas ce qui, quand tu te lèves le matin, tu te dis « Yes !»
Exactement.
J'ai une amie qui m'avait poussée à l'époque. Moi, je connaissais pas du tout les podcasts. Elle a commencé à m'envoyer les podcasts Génération XX, La Poudre. Là, j'ai commencé à avoir des étoiles dans les yeux.
Dans
exactement. Et j'étais là, genre « Mais c'est génial, c'est incroyable. » En fait, ça me montrait qu'il y avait plein de nanas qui étaient dans la même situation que moi et qui finalement s'étaient lancées. Et puis un jour, dans le podcast, il y a Siam Jibril, de Génération X, qui parle d'une école de développement personnel qui s'appelle Wake Up. Et du coup, je suis hyper intriguée. Elle parle d'un test de personnalité qu'il faut faire, quoi. Donc je rentre chez moi. En fait, j'écoutais les podcasts en allant courir. Parce que je m'ennuie en courant, tu vois. Donc, au bout d'une heure de course, c'est très ennuyant. Mais avec un podcast, ça passe beaucoup plus vite. Et du coup, j'ai...
Quand t'as la même playlist qui tourne.
Ouais,
tourne,
c'est ça. Et puis les playlists, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Ouais. Du coup, je suis rentrée à la maison, j'ai fait le test. Et là, incroyable. Le résultat du test, en fait, j'avais l'impression que c'était moi qui... Enfin, le mec m'avait compris alors que, genre, c'était pas du tout... j'avais répondu à des questions plutôt simples. Et là, je me dis, mais waouh, ils ont... Enfin, je me retrouve dans cette description. Et donc, je regarde un peu ce qu'ils font au-delà et je vois qu'ils lancent un programme sur un mois de développement personnel pour trouver son Ikigai. Donc, l'Ikigai, en fait, le principe, c'est... Comment dire ?
T'as plusieurs, ouais, c'est
ça, plusieurs domaines. Tu trouves.
Il faut que ça se rejoigne.
En fait, c'est tu trouves le job qui correspond à tes talents, qui te permet de développer de nouvelles compétences sur lesquelles tu puisses gagner ta vie. donc tu développes tu prends ton talent de base, tu l'exploites, tu développes des compétences qui te permettent de gagner ta vie et qui sont en accord avec tes valeurs et tes passions. Donc c'est génial ce truc. Je me dis waouh, c'est ouf. Et en fait, du coup, j'ai fait partie de la première promo. Et en fait, je ne vais pas dire que ça m'a... comment dire ? Ce genre de formation, ça ne va pas te dire quoi faire. Mais ça t'aide à faire le tri dans tes idées et ça t'aide aussi à te dire qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation.
Oui, oui, tout à fait. Et il y en a qui ont réussi et il y en a qui sont en plein de leur ikigai. Donc, c'est ça.
Exactement. Et donc ça, c'était en juin de l'année dernière. Et je me dis... je finis le programme, donc c'est hyper clair dans ma tête faut que ça change. Par contre, faut que ça change. Comment ? Je sais pas encore. Et je sais pas si je dois quitter mon travail. Je sais pas. si je monte ma marque, si je bosse dans la mode. Enfin, je sais juste que j'ai envie de monter ma propre marque, que j'ai envie qu'elle soit éco-responsable. J'ai envie de faire les choses, j'ai envie de reprendre du sens dans le savoir-faire, dans le manuel. Mmh. Et je sais que j'ai envie de prendre ce challenge-là. Mais le comment, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si je reste dans ma boîte et je fais ça en parallèle. C'est très flou dans ma tête. Et eux, ce qu'ils me disent, c'est... En fait, ce qui est important, c'est de te mettre en action. Donc, c'est de rencontrer des gens, de prendre un petit café avec quelqu'un qui va connaître la mode. L'idée, c'est vraiment, c'est une espèce d'effet domino, quoi. Il faut y aller, quoi.
Il ne faut pas attendre un moment qui viendra jamais, en fait.
Ouais, exact.
Et en fait, donc ça, c'est ce qui se passe là en juin, fin juin, juillet, août, je rencontre plein de gens, je discute, je vais à des conférences, je fais plein de choses, mais c'est flou dans ma tête. Et je me dis, bon, je pars en vacances, je rencontre une nana qui me dit, écoute Inès, là je pense que c'est pas clair dans ta tête, et en fait il faut que tu prennes du recul. Donc prends du recul, tu verras, ce sera beaucoup plus clair en septembre. Et en fait, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que je suis partie en Grèce avec mon chéri, j'ai pensé à autre chose. Et j'arrive en septembre, je fais un premier entretien avec mon manager qui était censé me projeter sur janvier. Et puis là, il commence à me dire oui, en janvier. Et puis là, je regarde, je fais. En fait, en janvier, je serai plus là, en fait.
D'un coup, comme ça.
Ouais, en fait, le fait qu'il me parle de janvier... Ouais. En tant que... Enfin, je n'arrivais pas à me projeter. Janvier, ouais, consultante.
Ouais,
tu vois,
ouais,
je me disais, non. j'ai envie de le faire, quoi. Mais et c'est là que, du coup, je me suis dit, bon, OK, sois réaliste vis-à-vis de ce que tu sais faire ou pas. Donc, j'ai regardé ce que je savais faire. Finalement, j'étais pas... Enfin, il fallait que je fasse des robes, que je dessine des robes. Donc, en été, j'avais commencé à apprendre, à regarder des vidéos pour apprendre à dessiner. Je me rendais compte que j'avais le coup de crayon. Donc, ça allait, tu vois, que c'était assez... Enfin, je suis pas une grande artiste peintre, vois. Mais dessiner des robes, j'ai compris un peu comment il
fallait. Puis, je pense que tu as l'esprit technique aussi. Et ça, c'est très important dans la couture. Donc, c'est pas juste de l'art où tu te lances dans un truc et voilà quoi.
Bah, effectivement, moi je voulais créer une marque aussi qui soit accessible et qui donne envie à des nanas. Enfin, tu vois, c'est pas une marque, j'aime le dire, modeuse, tu vois, les trucs d'upcycling où ils reprennent des choses et qui font du patchwork ou tu vois, des choses très, que tu vas porter pour plutôt sur un défilé, tu vois. Ouais. Moi je voulais quelque chose que tu puisses porter tous les jours ou une robe que tu peux porter à une occasion mais qui va pas être tu vois tu vas pas te dire c'est la dernière Yves Saint Laurent tu vois c'est je voulais quelque chose d'accessible de plutôt casual de plutôt plutôt féminin mais pas forcément modeux quoi
enfin, oui, voilà. Je comprends oui un truc qui perdure en fait dans le temps et d'ailleurs je suis en train de regarder ta toile là, la dernière toile que tu as faite mais elle est magnifique je me dis des fois mais il n'y a pas des clientes qui veulent garder les toiles quoi, parce que... non mais je te jure c'est limite tu pourrais penser que c'est une vraie robe hein.
Ouais bah écoute moi
je donne tout hein. je donne la toile enfin si la cliente veut garder la toile mais après bon hein. La toile c'est mieux là enfin en fait la robe après elle est tu te dis déjà là mais c'est pour ça que je te dis c'est hyper important la toile parce que ça permet de se projeter enfin ça permet de vraiment se dire ok ça va ressembler à ça
ouais.
Et dans l'idée moi demain j'aimerais aussi pouvoir je me suis formée à la 3D pour que les gens puissent se projeter directement sur de la 3D avec leur morphologie etc donc je me suis formée par Mylène de Milan avant JC qui m'a formée à un logiciel qui s'appelle Flow 3D qui permet de créer les patrons en 3D et de voir là pour l'instant j'ai mis un peu en stand-by mais en tout cas l'idée c'est vraiment de le faire parce que je pense que dans une démarche un peu tu vois d'upcycling et de zéro waste etc je me dis ben tu vois si je peux le faire virtuellement ça permet aussi à la personne de se projeter puisque tu peux lui créer sa morphologie avec un avatar. Ben, ça peut être
cool. Oui, c'est aussi encore plus personnalisé déjà l'accompagnement que tu fais et puis ça rajoute un côté ludique.
Ouais, exactement.
Donc là, je suis en train de regarder comment je peux intégrer dans mon processus et mon parcours.
Nickel. Sinon, du coup, comment t'es venue l'idée finalement, tu me l'as...
Ouais, alors du coup, panaché. Alors panaché, c'est arrivé. Alors donc, quand j'étais en Grèce, j'ai lu pas mal de livres, notamment un livre de Kate Fletcher qui est un peu la référence en termes de mode éthique, en termes de comment dire de recherche hein, en mode responsable. Donc j'ai lu. Et en fait, elle disait, si tu veux, aujourd'hui, les matières premières. Finalement, quand tu regardes le processus de création d'une matière première, bah, tu te dis finalement, tu consommes de l'eau, tu consommes de l'énergie, tu consommes du CO2, tu dégages du CO2, et au final, le processus de création de la matière est hyper coûteux pour la planète et a un impact important. Donc je me suis dit, ok, donc qu'est-ce qui a le moins d'impact? Je me suis tournée vers la seconde main. Puis quand j'ai lu dans son bouquin la partie chapitre recyclage, etc., t'as trois types de recyclage. T'as la fibre, donc tu recycles la fibre. Ça consomme de l'eau, ça consomme de l'énergie, ça consomme des produits chimiques. Donc je me suis dit, bon, c'est bien, mais j'ai pas envie. La seconde main, le vintage, ben, il faut être très vigilant parce que souvent ça transite par des grosses plateformes en Afrique ou en Chine et ben au final il y a des centres de tri, donc en termes de juste même travailler dans un centre de tri, c'est pas très éthique en soi parce que c'est les produits chimiques, parce que de la poussière, parce que donc je me suis dit ok, où est-ce que mes vêtements finalement ils ont le moins vécu, et je me dis ben, dans le placard des gens. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, et c'est là qu'est venu le principe de dire bah, je vais utiliser des vêtements de seconde main qu'on a dans le placard et qu'on ne porte plus, et c'est comme ça que j'ai construit le truc.
Combien de temps as-tu pris pour lancer Panaché? Du coup, pas si longtemps que ça au final, parce que...
Ouais, donc j'ai quitté ma boîte, donc ils ont été hyper cool, hein, ils m'ont accompagné vraiment sur ce projet-là, ça a été vraiment un accompagnement, enfin... La manière dont ils l'ont accueilli a été quand même hyper, hyper cool. Les gens ont été vachement enthousiastes et tout. Donc, c'est vachement... En fait, d'avoir l'aval des... Enfin, l'aval.
Ouais, ça, c'est... Je trouve que
c'est... Tu vois, c'est cool, ouais, de se dire, les gens partent pas fâchés. T'as ta famille qui te soutient, même s'ils comprennent pas toujours.
Oui. Mais déjà, c'est très, très bien que la famille soutienne, parce que c'est pas tout le monde.
Ouais. Exactement. Moi, mon chéri, il m'a dit, vas-y, je suis derrière toi. Enfin, n'hésite pas. J'ai quand même, on va dire, ça a été plutôt simple de ce point de vue-là. Donc en décembre, je quitte ma boîte et là, je me dis bon, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Donc là, je me suis dit, déjà, tu vas commencer à lancer. Enfin, j'avais déjà commencé à lancer ma com sur Instagram, mais je voulais me professionnaliser par rapport à ça. Donc là, il y a eu, on va dire, décembre, janvier, je me suis formée à la 3D, j'ai commencé à faire les premières robes pour des amis, je me suis rendu compte que c'était, enfin, ce que tu projettes en termes de business model et puis la réalité, il y a quand même un gap.
Bien sûr.
Et puis arrive en fin janvier, je me dis, bon, là, en fait, il faut que je rencontre les vraies clientes parce que c'est cool d'être en chambre, mais je ne me voyais pas rester un an à préparer ma marque et faire un lancement en septembre et me dire « Ouais, vas-y, c'est génial, tu vas lancer ton truc et tu vois un peu comment ça marche. » Moi, je voulais faire plus une démarche test and learn. Du coup, je me suis dit « C'est quoi le truc le plus simple à faire ? » C'est d'organiser un pop-up. Donc, je me suis mis une deadline. Je suis allée démarcher c'est souvent les rencontres hein, qui font ça. Mais du coup, j'avais deux pop-up qui suivaient genre à deux semaines près. Et je me suis dit « Ok, donc là, j'ai trois modèles que j'ai fait à trois amis. Je vais les décliner en taille standard. » Et là, j'ai déroulé la création. Je me suis fait accompagner par mon amie Virginie qui m'a aidée à coudre et à découper les vêtements et à choisir un peu les modèles. Et je me suis dit, ok, il faut que fin mars, c'est ton pop-up. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait mon rétro-planning. Il fallait que je crée la boîte, que je crée les statuts, que j'ai la marque, etc. Je t'avoue que ça a été hyper... Enfin, à partir du moment où j'ai trouvé le nom et que je me suis fait accompagner sur la partie charte graphique, c'était un peu plus simple parce que du coup, tu t'identifies à... Du coup, voilà, je me suis mis une deadline et du coup, l'identité de la marque, c'était hyper difficile parce que bah, au début, j'avais un nom, puis j'ai changé, puis Wendy, donc, qui m'a accompagnée, la designer, a été hyper, hyper cool parce qu'elle m'a accompagnée sur ça, hein, sur, elle m'a fait des propositions, enfin, direct, j'ai adoré la charte graphique qu'elle m'a fait. Enfin, tu vois, c'est hyper important de aussi se dire, ok, ça, tu ne saurais pas le faire, il faut te faire accompagner. C'est hyper difficile de dire où est-ce que je mets finalement l'effort, moi, personnel, et où est-ce que je délègue parce que bah, ça, c'est un métier en tant que tel, tu vois. Par exemple, c'est poser la question pour la com, tu vois. Je me suis... Après, il fallait aussi se poser la question, qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. La com, en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, enfin, c'est... Enfin, tu sais, des fois, dans ta tête, tu te dis, bah, les réseaux sociaux, c'est super simple, tu postes, machin, et tu te rends compte qu'en fait...
C'est des algorithmes, en plus, donc
ouais,
c'est...
Ouais, déjà, t'as des algorithmes.
Et puis, ouais, ça te pose la question de quelle stratégie de com tu mets en place. Enfin, où est-ce que tu mets l'effort? Parce qu'au final, t'as que 24 heures dans une journée et il faut dormir 12 heures. Et puis, bah, tu dois coudre et puis tu dois faire, enfin, démarcher, répondre aux clientes, faire les rendez-vous. Donc, tout ce temps-là, il faut l'aménager. Et ben, je m'étais posé la question de du community management, tu vois, à un moment donné. Ouais, du coup, je te disais, c'est hyper difficile de savoir qu'est-ce que tu délègues ou pas. Donc, la com, bon, j'aime bien faire des photos et tout ça, mais par exemple les shootings, je me suis fait accompagner. Là, j'ai un comptable parce que je me dis, enfin, tu vois, la compta, je pourrais le faire, tu vois, mais d'un autre côté, ben non, la partie legal, c'est une amie avocate qui m'accompagne. Enfin, tu vois, il y a des trucs, à un moment donné, tu peux pas être partout.
Je peux pas, mais tu vois, même ne serait-ce que moi, je trouve que le comptable, je pense que c'est vraiment important d'en avoir un, parce que ma maman, par exemple, elle est à son compte et elle a pas de comptable, mais après, quand tu dois déclarer des trucs, quand tu dois fournir compliqué. Des bilans, des machins, si t'as pas de comptable, c'est super, c'est encore plus compliqué, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis moi, il est là aussi pour répondre à mes questions, à mes questionnements. Il est là aussi pour m'aider, enfin, tu vois, genre des trucs tout bêtes, genre comment tu fais une facture. Non, mais genre, des fois, tu te poses des questions. Enfin, tu penses que c'est évident, mais en fait, quand tu dois le faire, ben...
Bien sûr.
Donc,
Ok. Ça voilà. marche. Et justement, en parlant de tout ça, est-ce que tu as eu, donc, tu as eu, donc, recours à des organismes d'accompagnement? Est-ce que tu peux en parler? Enfin, quand tu t'es dit que tu allais monter ta boîte, tu es allée vers quel organisme? Comment ça s'est passé, en fait?
Quand j'ai monté ma boîte, en fait, si tu veux, bon, déjà, j'ai dû faire le stage de la chambre des métiers, tu sais, le stage de 5 jours, là, parce que j'étais artisan, donc du coup, à partir du moment où tu as un statut d'artisan, tu es obligé de passer par ça. Ouais. Donc, j'ai fait ça. Je me suis dit, déjà, il m'apportait les bases de la gestion d'entreprise, donc tu sais, des trucs très très basique, hein, c'est les statuts, tout ça, donc ça c'était intéressant, donc ça je savais que j'allais piocher ça. Je me suis fait accompagner par un organisme via Pôle emploi, mais au final c'était pas si intéressant que ça, j'étais trop avancée sur mon projet par rapport à ça. Moi j'ai plutôt prôné plutôt le mentorat, tu vois, le mentoring, donc en gros j'ai des gens autour de moi qui m'accompagne sur certains points. J'ai une amie qui fait de la strat qui m'accompagne sur la partie stratégie. Je me suis fait coacher par une personne de la mode au moment où j'avais besoin de bien comprendre tout ce qui est univers de la mode, mode éthique et caler un peu le projet d'un point de vue valeur, etc. Je me suis fait accompagner par une designer pour la partie charte. Je suis plus dans l'humain que sur le... Tu vois, des organismes... Très vite, je me suis rendu compte que des organismes d'accompagnement, soit tu es dès le début du projet avec eux et ils te suivent, soit tu arrives un peu...
Déjà, ouais.
Tu vois, et en fait, souvent, c'est... Bah, c'est c'est cloisonné. Et puis, très vite, je me suis rendu compte qu'au départ, j'aurais pas besoin d'investissement parce que j'avais des fonds propres et que de toute façon, j'étais au début toute petite. Mmh. Donc, j'avais pas forcément besoin de beaucoup de fonds.
Voilà,
et que je comptais pas lever 300 000 euros comme ça.
L'upcycling, en plus, c'est pas comme si t'avais besoin de plein de matières.
Voilà, j'avais pas besoin de stock, j'avais pas besoin d'acheter 250 pièces chez des fournisseurs. Mmh. Enfin, mon modèle économique était plutôt petit, donc du coup, voilà. Là aujourd'hui, je cherche à me faire accompagner sur du coaching plus, tu vois, avoir un peu une stratégie moyen terme. Parce que là aujourd'hui, je suis beaucoup dans une vision test and learn, c'est-à-dire là aujourd'hui, je teste mon marché. Mm-hmm. Donc je fais des expériences de 4 à 6 mois et je vois quoi. Parce que j'ai aussi cette approche de mon ancien métier et j'aime bien être agile et pouvoir pas me dire voilà ma vision à 3 à 4 ans c'est ça mais je me rends compte que quand même il faut un cap, il faut avoir une ambition, il faut se dire ok où est-ce que je veux aller parce que effectivement au début c'est bien de tâtonner mais à un moment donné c'est bien aussi de se dire je déroule aussi un plan quoi.
Restez dans l'action.
Exactement.
Du coup, en parlant justement de tout ça, de ton métier d'auto-entrepreneur, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ?
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi ? C'est d'être seule, en fait, dans les décisions. Ouais, c'est ça. D'être seule dans les décisions, parce qu'à un moment donné, tu prends une décision et quand t'es deux, c'est deux, quoi. La responsabilité partagée, là, chaque décision, c'est moi qui la prends et au final, c'est super bien parce que ça me permet d'être hyper libre et que moi, j'ai besoin d'être hyper libre. C'est un des points que le Ikigai m'a fait sortir, c'est moi aujourd'hui le salariat j'ai fait le tour parce que en fait d'avoir un chef et d'avoir finalement quelqu'un qui te dit quoi faire, voilà.
Ouais.
Donc le fait d'être libre et libre de ses journées, de se dire aujourd'hui j'ai envie de faire 4 rendez-vous et d'être hyper speed et puis aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps et peut-être d'aller à une conférence et de rencontrer des gens qui seront pas forcément dans mon domaine mais qui vont me permettre de m'ouvrir les chakras, je peux le faire, tu vois, et que dans un job de salariat tu peux pas forcément le faire. Mais d'un autre côté t'es seule et du coup il y a des moments c'est difficile de sortir la tête de l'eau et de se dire que voilà, t'as d'autres manières de, enfin que en fait là t'es down mais que du coup demain ça se passera mieux et tout. Bon, heureusement mon chéri je lui dis aujourd'hui il faut qu'on mette en place le conseil d'administration
de toute façon. Mais même je crois dans les formations, même Pôle emploi je crois, ils te disent par contre il faut vraiment que votre conjoint vous soutienne. Ils te disent au début, ils te disent si vous lancez dans l'entrepreneuriat, pensez à votre conjoint.
Ouais, c'est ça. Le conjoint est hyper important. Mes amis, tu vois, mes copines, elles relisent mes articles. Enfin, j'ai quand même autour de moi des gens qui sont ultra bienveillants et qui sont là pour me soutenir et qui m'apportent leur aide, tu vois. Genre, pour le shooting, c'est le chéri de ma copine qui. Et Charlotte, une nana que j'avais rencontrée dans une conférence, qui m'ont filé un coup de main. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'entraide. Sans ça, en fait, tu pètes un plomb, quoi. Enfin, tu sais, genre. La solitude de l'associé unique, c'est dur. Ouais. Mais d'un autre côté, ça évite plein de problèmes. Parce que le nombre de gens qui sont associés et qui sont pas sur la même. Enfin, choisir son associé, je pense que c'est. Ou des gens qui vont bosser avec toi, c'est hyper important.
Ouais.
C'est primordial, en fait.
Et
c'est vrai que c'est difficile pour quelqu'un de venir aussi s'accoster sur un projet qui existe. Moi au départ j'aurais bien voulu m'associer mais j'avais mon idée, tu vois, c'est pas un truc qui s'est créé.
C'est toi qui as porté le projet et après ça dépend aussi, tu vois, si jamais t'as vraiment ton nombre de clientes qui explose, ou de clients d'ailleurs qui explose, peut-être qu'un jour, effectivement, tu auras besoin d'un associé. Mais oui, c'est chaque chose à son temps. Et puis, justement, j'avais assisté à une conférence Google, d'ailleurs, sur des femmes entrepreneurs qui a monté sa boîte, qui était toute seule au début. Mais au bout de 10 ans, elle a su que il fallait
Oui, 10 ans.
qu'elle. C'est ça. Non, mais c'est ça, il faut être toujours en
Ouais.
constante agilité et.
Il faut ouvrir ses chakras. Je pense
C'est
qu'il n'y a
ça.
pas de.
Ouais.
Il n'y a pas. Mais enfin, c'est un peu un mariage, quoi. Pour moi, c'est un second mariage. Et d'ailleurs, mon chef qui m'accompagne, parce que mon ancien chef m'accompagne beaucoup. Là, je l'ai croisé ce matin. Où je suis allée dans un café, il était là. Je lui ai dit, il faut qu'on se voit. Et tu vois, il m'a aidé sur mon business model. Il m'a aidé, il me soutient, il est là pour m'accompagner aussi sur la partie. C'est lui qui m'a reconseillé son comptable et tout. Enfin, il m'a vraiment accompagné sur ça. Et ben, il m'a dit, il y a deux choses que je peux te dire. C'est négocier le divorce avant le mariage et pense à être deux personnes à la fois, pense à être l'opérationnel, mais c'est important qu'une fois par mois, tu redeviennes la dirigeante.
Très 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 bon conseil.
Voilà.
Et du coup, en revenant sur toi, tu m'as parlé de ce qui était le plus difficile, mais qu'est-ce que tu adores justement dans le fait d'être à ton compte et d'avoir ta boîte? Qu'est-ce qui
C'est
te plaît?
le truc qui fait flipper et qui est génial à la fois, c'est l'inconnu en fait. C'est chaque jour est différent. Je m'ennuie pas, je décide de ce que je fais. Les rencontres, enfin, je rencontre plein de gens. toi par
Voilà.
exemple. Ça m'a ouvert à un univers complètement décloisonné en fait, où les rencontres, je peux rencontrer des gens dans différents univers et des gens que j'aurais jamais rencontrés dans
Ouais,
mon ancien
c'est
job, quoi.
vrai.
Donc ouais, c'est des rencontres.
C'est marrant, mais toutes les femmes que j'ai interviewées me disent les rencontres. Enfin, peut-être que c'est peut-être pas le truc qui vient en premier, mais à
Ouais.
la fin,
Après,
après,
bien
toujours
sûr,
aussi
c'est
le fait de.
de
Ouais.
créer de la créativité, etc. Le fait de pouvoir vivre de son, de son, de son, de son, ouais, de pouvoir dire, ben voilà, je vais t'habiller, je vais, bien sûr, il y a ça, mais si tu prends hors du projet, juste ma nouvelle, enfin mon mode de vie, ouais, c'est des rencontres.
C'est s'ouvrir en fait.
Ouais,
C'est
c'est
ça.
ça,
Ben, il y a
à
justement,
d'autres trucs, quoi, et se
ouais, s'ouvrir
questionner
et
et
se
se dire,
dire.
ok, comment je peux faire pour changer un petit truc? Faire avoir un petit truc qui va changer, apporter ma petite pierre à l'édifice.
Ben, y a un truc que j'ai trouvé beau, c'était j'ai interviewé Maëva qui a créé des vernis naturels. Et elle, en fait, à la base, elle voulait faire un tour du monde. Sauf que comme elle s'est consacrée à son projet, à son entreprise, finalement, bah, le budget qu'elle avait pour son tour du monde,
Elle était
elle l'a
dans
mis
sa boîte, ouais.
dans sa boîte. Et en fait, elle m'a dit, mais je l'ai fait mon tour du monde au final. Parce que tu rencontres des gens différents, qui font plein de métiers différents. Et du coup, elle m'a dit, mais au final, je l'ai fait mon tour du monde. Et je
Je
continue à le
continue.
faire, en fait.
Ouais. Non, mais c'est
Donc.
ça, c'est vraiment. Enfin, ouais, c'est tous les jours différents. Quand on a fait le pop-up avec Teresa, le deuxième pop-up
Où on s'est
là, Nietzsche, où on s'est rencontrés,
rencontrés.
putain, le nombre de gens qu'on a rencontrés, avec qui on a eu discuté, on a échangé, c'est hyper riche. Et en fait, ben, c'est ce que je recherche aujourd'hui, tu vois. C'est de dire, ben, je vais perpétuellement me remettre en question, ce que je pense savoir et dire, bah, tu t'ouvres à d'autres
Ouais, puis
univers, quoi.
c'est donner et recevoir en
Ouais,
fait.
exactement. Et puis aider aussi potentiellement les autres, enfin, tu vois, genre, ouais, ce truc-là de lien entre les gens, je trouve que c'est hyper fort.
Et du coup, en parlant de lien entre les gens, quels sont les gens qui t'inspirent?
Alors, les gens qui m'inspirent,
Ça peut être des proches, ça
il
peut
y en
être des stars,
a.
ça peut être des gens inconnus, totalement inconnus.
En fait, il y a plein de gens qui m'inspirent, beaucoup de femmes, en fait, je me rends compte. J'écoute beaucoup le podcast La Poudre, Lorraine Bastide,
Oui,
par
ah non, c'est
exemple.
oui.
Lorraine Bastide.
Ah, la
Elle,
poudre, oui. Ah
elle
non, c'est l'autre
m'inspire
qui est connue.
pour son, comment dire, pour sa force et son féminisme et puis ses convictions. Siham Djibril, elle me de Génération XX, enfin, elle m'inspire parce que la nana, elle arrive à détecter, enfin, à rencontrer plein de gens, à faire de ce podcast finalement. Enfin, c'est une perle. Ce podcast, il est génial. Et le podcast de Pauline Léniaud, de Gratin, est génial.
Pauline, si vous nous écoutez.
Voilà, exactement. elles sont incroyables. J'avais rencontré Inès Léonard-Doudy. Je sais pas si tu connais, elle a créé l'ONG Digital Force the Planet. Cette nana, c'est incroyable. Elle a écrit un bouquin. Elle a décidé de créer Digital Force the Planet en disant, je vais lutter, à l'échelle des entreprises, contre la pollution digitale et montrer qu'il est possible de faire différemment. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand tu reçois un mail, déjà, ton mail, il est stocké N fois sur N serveur. Ça pollue de dingue. Les data centers, ça pollue de dingue. Les téléphones, ça pollue. Je sais pas si tu as lu le livre Les métaux rares je sais plus comment il s'appelle.
C'était un reportage que j'ai vu sur les métaux qu'il y a dans les iPhones. C'est des petits enfants en Afrique qui vont les chercher dans des mines.
Ils sont en train de dans le tableau de Mendeleïev, ils sont en train de taper sur des choses qui étaient à la base rares. Aujourd'hui, on les produit en masse. Donc, toutes ces nanas engagées, ça m'inspire. Après, de manière un peu plus futile, je kiffe les trucs futiles aussi. Moi, j'ai ma copine Vanessa qui m'avait parlé de Caroline Receveur. Nana. Bon, après, on n'est pas du tout sur la même échelle, mais
Cette nana. Elle est quand même dans le milieu de la mode.
Moi, ce qui m'inspire, c'est comment elle est passée de meuf de la télé-réalité entre chef d'entreprise. Ouais. Et elle m'inspire de ouf.
Mais tu sais que Nabila...
Alors moi, Nabila, elle m'inspire un petit peu moins.
Non, mais je pense qu'elle doit inspirer quand même des jeunes filles. Ouais. Parce que je trouve qu'elle a quand même changé aussi en passant de fille de la télé-réalité, mais vraiment le cliché, gros cliché de la nana télé-réalité. Là, pareil, elle a sa boîte, elle a fait... Bon, c'est pas des cosmétiques naturels, mais bon. Et je trouve qu'elle a vraiment mûri. Ouais. Bon, elle a sorti son bouquin entre-temps.
Après, c'est des nanas qui sont hyper accompagnées. Enfin, oui, tu vois, quand tu regardes la vidéo de Caroline Receveur, tu te rends compte qu'elle a quand même une team derrière et tout ça. Donc, mais c'est des nanas inspirantes au quotidien, par même le style leur style, etc. Donc, c'est vraiment... tu te dis, c'est... Moi, j'aime bien m'inspirer un peu partout parce que je pense qu'il y a des bonnes choses à apprendre un peu partout,
Ouais.
Et d'ailleurs, les TEDx, moi, je ne sais pas si tu...
Comme je suis pas sur Paris...
Tu peux les avoir en vidéo sur TED.com. Et moi, à la base, je regardais ce truc-là pour apprendre l'anglais. Parce que quand il fallait que je passe mon TOEFL, il fallait que je bouffe de l'anglais. Donc, j'avais découvert ça comme ça. Et en fait, c'est ouf parce que tu te rends compte que... t'as des tonnes de gens qui savent des tonnes de trucs et sur des domaines hyper ouverts. Et j'avais écouté un podcast d'un des fondateurs de Bonne Gueule qui disait si tu veux un jour t'ouvrir au monde, il faut t'ouvrir aux autres et s'inspirer d'autres secteurs et d'autres manières de faire et d'autres mondes et d'autres gens. Bonne Gueule, c'est un média d'influence pour les hommes, pour la mode masculine. Et en fait, il disait, il faut pas rester sur son domaine, il faut aller chercher d'autres trucs. Donc, s'ouvrir les chakras, je pense que c'est...
Ouvrons nos chakras.
Être curieux, ouais.
Donc, tu m'as parlé des gens qui t'inspiraient le plus. Maintenant, on va parler de toi. On va passer pour pas changer. du coup, on va passer à des petites questions-réponses. En fait, j'aime bien poser ces questions aux personnes que j'interviewe. Ouais. Pour voir si les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs ont les mêmes goûts ou pas, d'ailleurs. Donc, on verra bien. Et on va commencer donc par la glace. Quel est ton parfum de glace préféré?
Amande.
Amande?
Ouais.
Ah, c'est original et pas original en même temps.
Non, j'aime bien la maréto. En fait, j'aime bien tout ce qui est amande. J'ai découvert ça en Italie et j'aime trop. Genre la maréto dans le café au lait, c'est trop bon.
C'est trop bon, c'est vrai, on n'y pense pas. Enfin, moi, quand je choisis un parfum de glace, j'y pense pas, mais c'est vrai que c'est bon l'amande.
Ouais, l'amande. J'adore l'amande dans toutes ses formes.
En graines aussi.
Ouais, et en huile d'amande, c'est génial. L'huile d'amande douce, ça sent trop bon. Ouais, ça c'est
ok,
vraiment,
la voilà. Monde, nickel. Ta chanson préférée?
Alors moi, c'est des chansons. J'ai pas de chanson préférée, j'ai des chansons du moment. Et en ce moment, c'est la chanson de. En fait, les chansons préférées, c'est des chansons que j'aime mettre quand je me lève le matin et que j'ai envie d'écouter.
Ouais.
Et donc, genre, c'est trop marrant parce qu'en fait, je les écoute en boucle. Donc aussi, là, en ce moment, je suis en train d'écouter la chanson de. De Justin Bieber et comment il s'appelle et Ed Sheeran. Je sais plus comment elle s'appelle cette chanson, putain, mais elle est trop bien et genre vraiment géniale cette
chanson.
Je crois
que je l'écoute, je l'ai pas écoutée encore.
C'est une récente, ouais.
Faudrait que je l'écoute.
Et genre je suis à fond ce matin, mon chéri m'a réveillé avec cette musique. Enfin, ça me donne la pêche, j'adore.
Bon,
voilà.
Bah, je vais l'écouter. Voilà. Alors.
Donc ouais, playlist, souvent quand c'est commence à être l'été là, je commence à faire des playlists summer. Mais ouais, okay. Après moi en termes de musique, ouais, je suis plus j'écoute ce type de musique ou alors des électro.
Ok,
j'aime,
d'accord.
J'aime beaucoup l'électro.
Okay. Ouais. Ça marche. Ta série préférée?
Ah, j'en ai plein des séries préférées, mais ma série du moment, c'est Billions.
Billions?
Ouais.
Je connais pas.
C'est une série qui parle de traders qui font, on va dire... En gros, l'histoire, c'est deux mecs. T'as un qui est procureur général de New York et l'autre qui est trader, mais qui fait des shorts. Tu sais, il mise sur des valeurs qui vont dévaluer. Mm-hmm. Donc, en gros, c'est comme ça que...
C'est du risque, quoi.
C'est les mecs, en gros, ils misent sur le fait que ta boîte va couler, quoi.
Oh, putain, hein, horrible. Coup,
voilà. voilà, donc, en gros... et en fait, au départ... ce qui est sûr, c'est que le méchant, enfin celui qui est un peu bâtard, c'est celui qui fait des mises.
C'est pas avec le mec qui fait Chuck Bass, non?
Mec qui fait... c'est Damian Lewis. C'est le mec qui faisait dans Homeland, le roux, qui est dans Homeland.
Okay.
Et il est incroyable. et en fait, tu sais plus qui est le plus bâtard à la fin, entre le procureur général qui est prêt à tout pour le défoncer,
ouais.
ou lui. En fait.
Ok. Est-ce que ça fait un peu style le loup de Wall Street?
Ouais, style un peu le loup de Wall Street, ouais. Les mecs, ils sont 100 fois... Enfin, là, je suis à la saison 4. Ils sont 100 fois ni loi. Enfin, oh franchement, là. Genre, en fait, c'est... Bon, là, c'est devenu un peu trop macho, donc j'aime un peu moins. Je trouve que vraiment, c'est centré sur les mecs. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop... c'est pas trop dans mon mood. Mm-hmm. Mais putain, mais... Enfin, c'est hyper bien ficelé.
Ok. Bon, bah... Je note aussi, du coup.
Les trucs n'ont aucune cohérence. C'est entre elles, c'est genre les amandes.
Les vitraux, les amandes. Ouais. Écoute. La destination où tu rêverais d'aller en voyage. L'Irlande.
Non, je rigole. Absolument pas. je sais pas. J'avais à un moment, je voulais beaucoup aller en Patagonie. Parce que ça avait l'air ouf en termes c'est un dans le sud de l'Argentine.
Ah oui, voilà, je me disais que c'était quelque part.
Donc, mais je suis africaine dans le sens où j'ai vécu pendant 18 ans à Tunis, mais je suis jamais descendue en dessous du désert, tu vois.
Bien, Madagascar.
Voilà, exactement. Donc ouais, l'Afrique, ça me, en général, les pays d'Afrique, ça me tente très bien, la Tanzanie, tu vois, ouais. L'Éthiopie.
C'est super beau, la Tanzanie, j'ai vu des photos.
Ouais. L'Éthiopie, ouais. Le Rwanda, tous ces pays, en fait, qui sont émergents aussi dans la manière de consommer et qui sont en train de repenser aussi l'urbanisation.
Ouais, bah, le Rwanda,
ils sont ouf
par rapport à ça.
L'Éthiopie aussi.
La croissance du Rwanda, je ne sais plus de combien elle a augmenté. Ouais. Et l'Éthiopie, je crois que c'est une femme, ils ont une femme présidente.
Ouais.
Ouais.
Du coup, tous ces pays-là, je pense que en termes de déchets, de mode, un peu, tu sais, de ce qu'on appelle le jougad, c'est à la base indien le jougad, mais c'est comment je crée l'innovation à partir de contraintes très fortes et finalement d'un peu de peu de moyens, quoi.
Ouais. En fait, ce qui est cool, je trouve, avec ces pays, c'est qu'ils sont en développement et en plus en plein dans tout ce qui est innovation. Ouais. Alors que, on va dire, les vieux pays européens, comme ils sont tellement déjà dans le système de surconsommation, c'est plus difficile, je pense, de se tourner vers un mode de vie plus green. Alors que eux, ils ont...
Culturellement, déjà, à la base, ils sont très orientés sur la nature, sur les plantes, sur des médecines un peu... différentes, des modes de vie un peu plus ancrés dans la nature.
Tout à
Mais
fait.
En plus de ça, ils sont très... Enfin, ouais, ils arrivent à trouver des choses en mode débrouillardisme hyper ingénieux.
Ouais.
Et enfin que j'adore. Enfin, du coup, ça me tenterait bien pour cette approche un peu. J'ai changé un peu d'approche de voyage. Je m'en suis rendu compte là en allant à New York là en mai. C'est cool de faire des voyages pour découvrir des paysages, mais j'ai envie aussi de faire des voyages initiatiques pour apprendre des choses et m'ouvrir un peu les chakras sur d'autres manières de vivre et d'autres manières. Enfin. Ouais, de découvrir, tu vois, un peu, je sais pas, faire de la permaculture.
Ah bah oui. Ouais,
apprendre à faire des choses, quoi.
Est-ce que tu connais la blogueuse Is No Good?
Ouais, je la suis, ouais.
J'ai vu son tour du monde, avion et tout.
Ouais,
c'est cool. Et en plus, justement, je sais plus, dans une de ses vidéos, elle disait qu'elle avait fait un voyage du woofing. Elle avait fait du woofing à Hawaï.
Ouais.
Et qu'elle avait adoré ça, quoi. Donc,
ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, je pense que... Il y a cette question de l'avion aussi, tu vois. Moi, j'ai peur en avion, en plus, donc c'est encore pire. Mais tu vois, de se dire, ben, il y a aussi peut-être des choses à voir en Europe ou peut-être, tu vois, repenser son mode de voyage en se disant, ben... En fait, de toute façon, il faut essayer de se poser... Enfin, je pense qu'il faut pas arrêter de voyager. Mais par contre, tu vois, genre, un mois avant, je partais tous les week-ends, je prenais l'avion tous les week-ends... Maintenant, je
tu allais voir ta famille?
Non, j'allais à Tunis, ouais, de temps en temps, mais je faisais des week-ends genre à Barcelone, en Italie, machin. Ouais. Enfin, tu prends l'avion pour n'importe quelle raison. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, il faut peut-être aussi slow un peu et se dire faire des gros voyages, c'est cool, tu vois. Mais tu vois, un mode de vie où on voyage tout le temps, je sais pas, tu vois. Je me dis, est-ce que finalement c'est si bien que ça en termes de CO2 et tout ça? Bon.
Je comprends. C'est une belle réflexion.
À un moment donné, ouais, il y a une vraie cohérence. Enfin, c'est très difficile de rester cohérent dans une démarche. Enfin, tu te rends compte que, ben, dès lors que tu tires un fil, ben, il faut en tirer d'autres, quoi. Ouais, et c'est super difficile, finalement.
Mais de toute façon, dès que tu tires un peu, dès que tu tires un petit peu, tu vois que derrière, c'est...
Sinon, après, tu vis dans... Enfin, ouais.
Ouais. Ouais, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus vivre tout s'interdire aussi, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est compliqué d'essayer de vivre dans son temps et en même temps de faire le plus pour l'écologie possible, quoi.
Ouais.
Je comprends.
Ouais, on est souvent tiraillés, ouais.
Ouais. Ce qui t'aide à te concentrer?
Le sport, ouais. Enfin, là, je me suis mis une routine sportive hyper stricte. Enfin, j'essaye de la tenir, c'est un peu compliqué, mais genre, je fais de la danse, je fais du bootcamp, je fais de la course à pied.
Ah, c'est cool.
Et franchement, quand je le fais pas pendant une semaine, je me sens pas bien, quoi. Et ça me permet vraiment, tu vois, de focus. Je suis hyper active, hein, donc tu peux le voir, je n'arrête pas de bouger. Je suis hyper active et j'ai besoin de canaliser les émotions. Et ouais, le sport, ça m'aide beaucoup.
Tu as raison. Moi aussi, il faudrait vraiment que je m'y remette. J'arrive pas parce qu'à chaque fois, tu vois... Et au final, il faut y consacrer du temps. Mais à chaque fois, je me dis, bon, mais j'ai ça à faire. Tant pis, je décale ma séance. Je décale et je décale tout le temps, quoi. Je cours, allez, on va dire, j'essaie de courir une fois toutes les deux semaines.
Ouais.
J'essaie de faire des petits exercices par-ci, par-là. Mais...
Non, moi, j'ai gym libre, en fait, c'est trop bien. Parce que du coup, c'est un truc... Bon, après, c'est que les entreprises. Donc, c'est une amie qui m'a parrainée. Mais ouais, c'est trop bien parce qu'en fait, t'as accès à toutes les salles de sport de Paris. Enfin, en tout cas, moi à Paris, mais c'est partout en France. Hein. Et pour 50 euros par mois, tu vois. Donc, du coup, ça me permet de en gros, sur l'appli, tu génères un pass et après, t'as accès aux salles.
C'est...
Et donc, du coup, tu découvres plein de sports différents.
Ah ouais. Bah, tu m'as appris plein de trucs. Là, entre gym libre, le truc...
les talents d'Alphonse.
Je mets tout ça dans le podcast en notes. Qu'est-ce qui te fait le plus marrer?
Rire et chanson.
C'est vrai?
Je sais pas.
Oh, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que c'est des situations? C'est quelqu'un?
Non, mon chéri, il est assez drôle. Non, mais. Ouais, si, mon meilleur ami Clément.
Clément. Hello.
C'est ce mec-là, il danse comme un dieu et il est trop drôle. Et du coup, il me comprend. Il rentre dans mes délires. Ouais, il est drôle. Ouais. Il me fait bien marrer. Ouais.
Ça marche. Ok. Sinon, quels sont les projets futurs pour panacher. Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, pourquoi panacher?
Panacher parce que au départ, je cherchais un nom de marque qui présente l'upcycling, le surmesuré. Et je me suis dit, non, ça va pas le faire, c'est pas bien, tu trouveras jamais un nom qui regroupe tout. Panacher, pourquoi? Parce que panacher, c'est déjà... Moi, je voulais quelque chose qui pétille, tu vois, qui soit peps. Donc, j'aimais bien ce mot panacher parce qu'il donnait... Il était de bonne humeur et je trouvais que... C'est vrai que moi, je suis tout le temps de bonne humeur. Enfin, genre, quand je suis de mauvaise humeur... Tu vois, genre... T'es un peu pareil, je pense. Mais du coup, le matin, je me lève, je souris. Tu vois, je suis contente. Je sais pas pourquoi je suis contente, mais je suis contente, quoi. Donc, je suis souvent de bonne humeur. Donc, je voulais quelque chose qui incarne un peu ma bonne humeur. J'avais aussi ce principe de dire je fais quand même du mélange, je mélange des pièces, c'est comme un puzzle en fait, c'est comme du patchwork, donc panacher finalement c'est un mélange.
Non mais moi je trouve que franchement tu dis j'ai pas trouvé le nom upcycling et tout, mais si franchement
voilà, au niveau upcycling et panacher parce que mes clientes, elles sont toutes différentes. Si tu prends toutes les nanas que j'ai habillées, il y en a pas une qui est pareille, il y en a pas une. Donc au final, elles sont panachées dans leur style, dans leur personnalité, dans leur vie.
J'adore.
Donc au final, panaché, je trouvais que ça collait bien. Et puis ça reste en tête, tu vois. Okay. Et puis parce qu'il y avait le nom de domaine aussi qui était dispo, donc. Et ça, c'est hyper important.
Ok, super. On va du coup arriver à la fin de cette interview.
Oui.
Quels sont les futurs projets pour panacher?
Alors, pour panacher, les futurs projets, là, c'est vraiment donc là, je commence à avoir un portefeuille de robes. J'organise mes premiers pop-up, donc ça se passe bien. J'apprends de plus en plus. Je commence à peaufiner mon offre. Là, l'idée vraiment, c'est d'avoir une offre peut-être, d'ajuster mon pricing, d'ajuster mon offre pour que du coup, je puisse toucher le plus de monde possible. C'est-à-dire le sur-mesure finalement, le faire peut-être un peu plus haut de gamme et puis de développer peut-être une gamme un peu plus casual pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de dépenser 400 €, mais qui ont envie d'avoir une robe panachée. Donc, et moi aussi essayer d'industrialiser mon temps parce que aujourd'hui, tout repose un peu sur mes épaules. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de gagner un peu en efficacité par rapport à mon processus de création. Et l'idée, voilà, c'est de... Là, aujourd'hui, j'essaye le maximum de vendre des robes, faire en sorte que déjà habiller, faire connaître ma marque, et grandir en termes de marque, voilà. Donc, c'est l'idée.
Super. Pour finir, quels sont les conseils que tu donnerais aux femmes qui souhaiteraient créer leur boîte ou se lancer dans la mode éthique ou quelque chose d'éthique?
Ouais. C'est déjà de bien se poser la question de ce qu'on a envie et quel est le mode de vie qu'on a envie. C'est quoi ses valeurs, c'est quoi les valeurs profondes. Enfin, c'est quoi finalement qui t'anime et c'est quoi les convictions. Enfin, tu vois, il faut vraiment se dire l'entrepreneuriat, c'est matin, midi et soir. Donc, il faut vraiment que tu sois sûr. Que ce truc-là, il te
saoule pas, quoi.
Ouais, c'est ça, est-ce que c'est vraiment en accord avec ce que tu es, quoi? Et moi, je pense que une fois que t'es sûr que ce truc-là, t'anime, c'est d'y aller et de, en fait, il faut être en action. Enfin, c'est pas, en fait, c'est bien de se projeter, de faire des choses, mais ça se passe jamais comme on l'imaginait. Et l'idée vraiment, c'est de, il faut y aller, quoi. C'est comme quand t'es en haut de la piste et il faut se lancer, quoi. Et tu verras bien comment ça se passe. Et en fait, moi, je trouve que faut laisser la part au hasard parce que c'est comme ça que, en fait, il faut pas être trop en attente. Je pense qu'il faut se dire, voilà, moi, mes valeurs, c'est ça, et qu'est-ce qui m'anime, c'est ça. Mais je pense que c'est pas... Il faut laisser une part au hasard, parce que c'est le hasard qui t'apporte les plus belles surprises.
Ouais. Il y a une citation qui dit, suivez vos rêves, ils savent où vous devez aller.
Ouais.
Ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a pas. C'est bien d'avoir un cap, de se dire voilà, moi j'ai envie. Tu vois, il faut vraiment se poser la question de l'ambition.
Ouais.
Quelle ambition t'as ? Est-ce que tu veux changer le monde ? Est-ce que tu veux trouver le job de tes rêves ? Est-ce que tu veux
avoir une trace sur le monde,
ouais,
quoi.
Exactement. Ou est-ce que t'as envie d'être connu ? Enfin, il faut être très sincère avec soi, ouais, sur son ambition et, ouais, son envie. Et après, une fois que t'es très sincère avec toi, ben en fait, tu peux être que authentique. Mais c'est un travail qui est assez difficile, ouais, parce que du coup. C'est compliqué des fois de se mettre avec ça.
Ah, oui, oui. Et bon, toi, tu as eu de la chance d'avoir l'entourage qui te pousse.
Ouais.
Mais quand c'est des personnes, voilà, où le conjoint ou la famille,
ne
les parents
pas, ouais,
ne suivent pas, ouais, c'est d'autant plus dur, quoi.
Il faut faire confiance à son intuition. Je pense que le nombre de fois où je me suis dit, mais j'en suis incapable, et qu'au final, ben, moi, je l'ai fait, quoi. Donc, en fait, faut pas se poser la question de comment je vais faire. Il faut plus se dire, je vais le faire. Est-ce que c'est plus grave, si tu veux, de faire un truc qui soit pas aligné avec tes valeurs, que de se dire, j'arrive à un moment et je sais pas le faire. Si, ouais, tu sais pas le faire, tu trouveras toujours un moyen. Mmh. En fait, tu connaîtras quelqu'un, tu vas chercher. En fait, la force, on la trouve.
Ouais.
Par contre, de se rendre compte qu'on fait un truc qui n'est pas du tout en accord, ou qui est contraire à, qui est irrationnel, mmh, ou qui n'est pas, qui est pas en accord avec ce qu'on est, ben là c'est plus difficile, parce qu'à un moment donné, tu te mens à toi-même, quoi.
Ok, super. Ben, sur ces belles paroles, merci encore.
Ouais, je t'en
franchement,
prie.
C'était un super interview.
C'est long.
Oh, non, mais c'est bien. Non, de toute façon, les podcasts, plus c'est long, mieux c'est. Donc, merci encore, Inès, d'avoir accepté de me recevoir dans ton atelier.
Ouais, tu parles.
Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez contacter Inès sur son site internet www.panaché.fr et la retrouver sur sa page Instagram au nom de Panaché. Vous trouverez également dans les notes de ce podcast les liens pour accéder au site des talents d'Alphonse, Digital for the Planet, Jim Lib et le livre de Ken Fletcher sur la mode éthique. Oui, on a décidément parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Tandis que moi, je vous retrouve sur mon blog belledemain.fr, sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à me donner 5 étoiles et laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça me permettra de le faire connaître à un plus grand nombre. Sauvons l'humanité de la surconsommation de la beauté. À très bientôt dans un prochain podcast.